France Musique.
Carrefour des Amériques.
Une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Du Costa Rica à Hollywood, de Paris et Genève à La Havane, c'est la musique et le monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre tourbillon américain. C'est La Havane qui nous accueille à nouveau. On est en 1944, alors que le bruit court en Europe qu'un débarquement des Alliés aura bientôt lieu. Cuba avait été un des premiers pays latino-américains à s'engager dans le conflit et le pays suit de près les événements. On connaît l'épisode d'Hemingway faisant la chasse aux sous-marins allemands dans la mer Caraïbe, des sous-marins qui avaient envoyé par le fond 6 navires marchands et un sous-marin cubain. La marine nationale cubaine a été très active durant le conflit. Elle a ainsi escorté des centaines de navires alliés qui naviguaient dans ses eaux et elle a sauvé la vie à plus de 200 victimes des sous-marins allemands. Aussi, dès 1944, l'espoir de paix renaît. Une année 44 qui a d'ailleurs débuté à La Havane sur un rythme de valse, puisque Ernesto Lecuona est à l'affiche en février avec la reprise au Théâtre National de sa zarzuela Lola Cruz où la valse tourbillonne. C'est sur sa valse bleue que s'ouvre aujourd'hui le rideau de notre épisode. Thomas Tirino piano, Jessica Valiente flûte, la valse bleue d'Ernesto Lecuona. Un mois plus tard, dans le même Théâtre National, c'est justement la création le 10 mars d'une nouvelle opéra intitulée La place de la cathédrale. Et cette fois, c'est l'Espagne qui est très présente. Le matériel d'orchestre et les manuscrits de cette Plaza de la Catedral n'ont pas été retrouvés. Par chance, Lecuona, peu satisfait, préparait une nouvelle version et c'est ainsi que le pianiste américain Thomas Tirino a découvert une sambra andalouse qu'on dansait dans la place de la cathédrale et que Lecuona avait gardée. Ces années-là, Lecuona travaille beaucoup aux États-Unis. Il part en Californie, invité par la Fox à Hollywood, où il compose la musique du film Carnaval au Costa Rica. Il y cite plusieurs de ses œuvres et compose de superbes danses espagnoles, mexicaines et cubaines, chorégraphiées par Leonide Massine. C'est l'âge d'or des films latinos tournés à Hollywood, conçus comme des comédies musicales de Broadway. Ici, la jeune Luisa, que ses parents planteurs au Costa Rica ont envoyée aux États-Unis pour étudier, revient au pays. Tout le monde prépare le prochain carnaval et Luisa se mêle immédiatement aux danses organisées dans la plantation. En se promenant dans la petite ville, elle rencontre un jeune Américain et c'est lui qui lui ouvre les yeux sur les beautés de son pays et de son peuple. Un Costa Rica filmé dans de somptueux paysages californiens et un village qui pourrait être mexicain et où on danse à la cubaine une nuit de carnaval.
Well, I might just look in for a minute.
Oh, now we're getting someplace.
Beautiful, wonderful orchestra, marvelous to dance to. What's the matter with the place?
I really don't see why I shouldn't come here.
I don't see why you can't come here and stay as long as I like. Do you?
I see.
Thank you.
un extrait de la bande sonore du film Carnaval au Costa Rica, dans lequel il y avait aussi une pasacaille en forme de java que Lecuona aimait beaucoup jouer au piano, ici interprétée par Tomás Tirino. La Havane, ces années-là, est toujours en mouvement. La foule bruyante se bouscule dans les rues au milieu des voitures. Les nombreuses terrasses de cafés sont pleines. Quand il revient à La Havane en novembre 1944, le chef d'orchestre Erich Kleiber aime se promener dans la rue, se mêler aux gens. Il a souvent dit combien il a été immédiatement séduit par la qualité de vie à Cuba. Il découvrait les chants des vendeurs ambulants. Il aimait les marchés avec leurs fruits tropicaux, la virtuosité des cireurs de chaussures, la gentillesse et l'indolence des gens, la possibilité de faire toujours des rencontres et bien sûr les langoustes et les fruits de mer. Il s'amusait beaucoup en entendant les Cubains s'apostropher d'un « Oye, ¿cuál es tu problema ?» et la réponse résignée « Oh, c'est cansa uno, il y en a assez ». Erich Kleiber aime cette cacophonie qui mêle les orchestres des cafés aux chanteurs à la radio. Et aux joueurs de bongos, ces tambours si cubains qui le fascinaient. On écoute Arsenio Rodriguez, le noir merveilleux de Cuba. C'est un chant en l'honneur des bongos. Erich Kleiber découvre à La Havane une ambiance et une simplicité naturelle qui donnent un rythme à la vie, ce qui rend la musique plus proche de la nature, loin des inhibitions que l'on connaît en Europe. Il est donc important pour lui d'ouvrir les concerts au plus grand nombre et au plus petit prix. Les concerts populaires à minuit lui valent à Cuba de nombreuses démonstrations de sympathie. Il écrit dans son journal que des cireurs de chaussures qu'il avait reconnus ont refusé d'être payés par lui. C'est dire sa popularité. Des amis l'ont invité à des bembés afro-cubains ou à des rumbas de quartier, son premier contact avec la culture afro-cubaine, dans cette vieille Havane où il aime bien flâner et où les concerts populaires de minuit sont pris d'assaut au Théâtre National. L'université aussi l'invite avec le Philharmonique. Sa générosité l'amène à diriger un concert gratuit pour renflouer la caisse de retraite des musiciens. Et à cette occasion, il ne programme que des œuvres cubaines, de Ruiz Castellanos, de Gilberto Valdés. Il dirige aussi les trois petits poèmes d'Amadeo Roldán, une œuvre qu'il avait mis peu auparavant au répertoire du Philharmonique. Gonzalo Romeo à la tête de l'Orchestre Symphonique National de Cuba dans la fête noire des petits poèmes d'Amadeo Roldán. À La Havane, Erich Kleiber prend conscience de la tâche qu'il reste à accomplir. Créer une organisation cohérente, élargir le public, obtenir de meilleurs salaires pour les musiciens, trouver une meilleure salle de répétition. Kleiber ne s'est jamais plaint à Cuba, mais il a toujours agi. On sait combien il tenait à la solidarité avec les orchestres. Par conséquent, à La Havane, il s'appuie sur les meilleurs musiciens qu'il nomme chef de pupitre. Le jeune violoniste roumain Prielucci, le timbalier mulâtre Aragu, le flûtiste Ondina, le violoncelliste argentin Nopozov et plusieurs musiciens venus d'Europe. C'est dans ce bouillon de multiples cultures que l'écrivain José Lezama Lima fonde en 1944 avec des amis l'une des revues littéraires latino-américaines les plus importantes du XXe siècle, la revue Orígenes, Origine, que Kleiber a beaucoup aimée. Une revue aussi importante que la revue argentine Sur de Victoria Ocampo. Pendant 12 ans, Orígenes publiera 40 numéros. Des dessins commandés aux plus grands peintres et dessinateurs, la contribution de grands philosophes, écrivains, peintres et compositeurs de Cuba et du monde entier, avec des traductions d'œuvres inédites de Valéry, de Joyce, de T.S. Eliot. Au sein de l'équipe, l'écrivain Virgilio Piñera coordonne un numéro consacré à l'Argentine avant de partir s'installer à Buenos Aires en 1946. Dans le groupe, il y avait aussi un musicien très proche toute sa vie de Lezama Lima et très ami d'Erich Kleiber, Julián Orbón. Il a 19 ans en 1944 et à Cuba, il est toujours aussi imprégné d'Espagne.
Thank you.
Le chef d'orchestre cubain Alberto Bolet à la tête de l'orchestre de la Suisse romande à Genève dans un extrait de l'hommage à la Tonadilla de Julián Orbón. C'est une archive de 1954 de la radio suisse romande. Erich Kleiber avait compris très tôt que Julián Orbón deviendrait un grand compositeur. Julián Orbón était né en 1926 dans les Asturies en Espagne, d'où était originaire son père, pianiste virtuose installé à Cuba au début du siècle et fondateur de plusieurs conservatoires prestigieux à travers toute l'île. C'est en 1934, suite à la violence dans les Asturies, que la famille Orbón s'était établie définitivement à Cuba. Julián a continué ses études avec son père. En 1944, ce dernier meurt à La Havane et le jeune Julián doit prendre à l'âge de 19 ans les rênes du conservatoire Orbón de La Havane et de ses succursales dans tout le pays. Julián Orbón partageait avec Lezama Lima un profond attachement à ce que l'écrivain appelait « el roquedal hispánico de Cuba », le socle hispanique de la culture cubaine qu'il fallait réaffirmer sans cesse pour lutter contre la désintégration culturelle et morale dans le pays et contre l'emprise croissante de la culture nord-américaine. Le groupe Orígenes prenait donc ce retour aux origines de la nation cubaine en s'identifiant à l'Espagne classique et contemporaine et en valorisant la culture afro-cubaine. Julián, admirateur passionné de Manuel de Falla et des grands compositeurs espagnols du XVIIIe siècle, aimait beaucoup la tonadilla espagnole qui était devenue tellement populaire à Cuba, et cela s'entend d'ailleurs dans le deuxième mouvement de l'hommage que lui rend Julián Orbón avec son rythme de guajira cubaine.
Thank you.
carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré, une coproduction des médias francophones publics.
En écoutant cet hommage à la tonadilla de Julian Orbon, on entend l'influence du compositeur américain Aaron Copland. Orbon avait étudié avec lui à l'Académie d'été de Tanglewood aux États-Unis en 1946. Et c'est à son retour qu'il avait composé sa première symphonie, qu'Erich Kleiber programme en novembre 1946. Une première symphonie accueillie avec un grand succès par le public, ce qui fait la joie d'Erich Kleiber. Hélas, dans la tourmente des événements post-révolutionnaires, plusieurs partitions de Orbon ont été perdues, comme cette première symphonie. En 1944, un autre compositeur commence à attirer l'attention sur lui. Julian Orbon l'aimait beaucoup. C'est Carlos Borboya. Il avait étudié avec Louis Aubert à Paris en 1926, où son père l'avait envoyé pour s'informer là-bas sur les nouvelles techniques d'orgue mécanique afin de perfectionner ce qu'il construisait à Manzanillo, à l'est de Cuba. Carlos avait 26 ans et il avait composé 3 sones cubains pour piano, édités à Paris. Puis à son retour, il avait repris le travail dans l'entreprise familiale et avait composé au fil des ans tout un cycle de rythmiques cubaines, de petites rumbas pour le piano à usage pédagogique, des partitions qui dorment dans ses cartons pendant des années et qui semblent n'intéresser personne. Le son numéro 11 de Carlos Borboya par Ulises Hernandez au piano. En réalité, on connaissait le nom de Carlos Borboya, mais qui connaissait son œuvre en 1944 ? Pratiquement personne, si ce n'est Julian Orbon et l'écrivain Alejo Carpentier. Carlos Borboya a un jour raconté à un journaliste. Maria Muñoz de Quevedo, qui avait fondé le chœur de la Havane, avait l'habitude d'organiser le dimanche, dans son conservatoire Jean-Sébastien Bach, au numéro 70 de la rue Saint-Raphaël, des dîners intimes avec quelques amis pour faire de la musique. Alejo Carpentier faisait partie de ce groupe et il est un jour arrivé avec un cahier de sones afin que Maria les joue au piano. Et tout le monde a été très surpris et on se demandait qui était celui qui les avait composés. Alejo Carpentier est émerveillé et consacre un article à Carlos Borboya dans son livre « La Musica Cuba ». En 1946, la poétesse Mirta Aguirre découvre aussi ses œuvres et organise un hommage à Carlos Borboya au Club Athènes de la Havane. La Lejanía, le lointain de Carlos Borboya par Noema Fernandez. En Europe, les événements se précipitent. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie et en août, Paris est libéré. À la Havane, on fait la fête, en particulier au célèbre Sloppy Joe's Bar, l'un des bars favoris d'Ernest Hemingway, où se réunissent de nombreux résidents étrangers. Et puis en juin 1944, Cuba a un nouveau président, Grau San Martín, qui l'emporte sur le dauphin de Fulgencio Batista, Batista très énervé, qui décide de s'éloigner de Cuba et qui part vivre aux États-Unis. Serait-ce pour fourbir ses armes et revenir bientôt au pouvoir ? L'ambassadeur américain Braden se méfie. Il avertit son gouvernement. Entre-temps, la victoire totale semble très proche en Europe. Le 12 octobre, malheureusement, un cyclone dévastateur frappe Cuba. Les dégâts et les victimes sont effrayants. Mais comme toujours, avec l'aide du gouvernement, le peuple se bat et des dons affluent de tout le pays. Le chanteur mexicain Jorge Negrete interrompt sa tournée à Porto Rico et revient à la Havane pour offrir un concert gratuit en faveur des victimes du cyclone. C'est la ruée au guichet du Théâtre National. Et sur scène, c'est lui qui présente sa première chanson, « Cuba de mi vida ». Cuba de ma vie, composé par Eliseo Grenet.
Muchas gracias, señoras y señores. El trío no viene en esta canción, que es exclusivamente interpretada por mí, que humildemente la ofrezco a ustedes y que me va a hacer favor de acompañarme el maestro González Marcos. De Eliseo Grenet, la preciosa canción Cuba de mi vida. Verde suelo y el ardiente sol, Cuba, cual gaviota herida en el mar tendida, y mes de dolor. Ay, que el cumple me brilla. Un
que surgiste del hondo mar, en sus limpias aguas te duerme rendida, y la brisa sutil te acaricia gentil cuando te besa el sol con alrededor. Tú, que naciste bella sin par, con una sonrisa a tu paz prendida, ¿cómo es que no puedes al fin encontrar? Fuma de mi vida la felicidad. Naciste bella sin par, con una sonrisa a tu paz prendida, ¿cómo es que no puedes al fin encontrar? Fuma de mi vida la felicidad, ¿cómo es que no puedes?
Lors de ses récitals à La Havane, Jorge Negrete est accompagné par un orchestre cubain, mais aussi par son trio Calaveras, les têtes de mort. Allusion humoristique à la fête des morts au Mexique qu'on célèbre en chantant et en dansant. D'ailleurs, à La Havane, en plus des chansons cubaines, Jorge Negrete avait chanté des rancheras mexicaines que le public cubain attendait. Et pour l'occasion, il mettait son chapeau de cow-boy des ranchs mexicains en interprétant par exemple son célèbre hymne à la ville de Guadalajara.
Bonita Guadalajara.
De ser de Jalisco, de ser de esta tierra donde las mujeres nos dan en sus besos que saben a prisco, a fresa y a mango todos sus quereres. Tierra tapatía, a ti no queremos locos ni borrachos. A los de Jalisco nos gustan entrones, pero no nos echen ni chichos ni gachos, y no más pa' darles ligeros quemones, que nos echen machos. Bonita Guadalajara, pero más a la patía. Buenas flores de Jalisco vinieron de Andalucía, y las trajas las Zapopan, la mera Virgen María. Bonita Guadalajara, pero más la tapatía. Cuando yo me muera, como me cuadrará tener un mariachi cerca de mi lecho
y el último aliento pa'l cielo derecho, el nombre bendito de Guadalajara. Soltar de mi pecho gritos de mariachis en noches de plata, palomas que vibran sobre el campo verde. Ese es mi Jalisco, valor sin bravatas. Jalisco no pierde, porque cuando pierde, Jalisco arrebata.
Bonita Guadalajara, pero más la tapatía. Pues las flores de Jalisco vinieron de Andalucía. Irás trajo hasta Zapopan la mera Virgen María. Bonita Guadalajara, pero más la tapatía.
En 1945, la musique classique est aussi mise à l'honneur comme jamais dans la presse. Erich Kleiber apparaît avant chaque concert sous la forme d'un grand encarté dans les journaux intitulé « Kleiber en el ensayo », une répétition avec Erich Kleiber, sous une grande photo du maestro. Il donne ses impressions, parle des œuvres. Cuba, encore une fois, est en avant sur bien des pays. En 1945, son ami, le compositeur Julian Orban, décide de quitter le groupe de rénovation musicale qu'il trouve trop refermé sur lui-même. Kleiber aime cet esprit d'indépendance et lui donne raison. Le fondateur du groupe José Ardévol est pourtant primé tous azimuts. Le journal de la Marine le défend beaucoup. En 1944, il reçoit le prix national de la musique symphonique à Cuba et c'est aux États-Unis qu'il est le plus joué. Comme son premier trio primé à New York, sa musique plutôt ardue est difficilement perçue par le public cubain. L'homme est très rigide. Erich Kleiber ne se sent pas non plus d'affinité avec lui. Et pourtant, c'est un peu le devoir qu'il s'assigne, il crée le rondo de sa symphonie en fa au concert du Philharmonique, une œuvre très mal accueillie par le public, au point que le journal de la Marine critique l'immobilisme des mélomanes cubains. Kleiber reprogrammera ce rondo l'année suivante. Cette année 1944, José Ardévol compose son concerto pour piano, vent et percussion, créé au Lycéum de la Havane en mai 45. C'est aujourd'hui l'une des rares œuvres enregistrées d'Ardévol où on entend son admiration pour Stravinsky et Darius Milhaud.
Thank you.
Ninovska Fernández Brito Piano, l'ensemble Nuestro Tiempo, notre temps, dans ce rondo du concerto pour piano, instruments avant et percussions de José Ardévol. Le 8 mai 1945, comme dans l'Europe et la France libérée, on fête partout la victoire à Cuba. Depuis un an, c'est la voix d'un jeune mulâtre, Benny Moré, qui enthousiasme le public. Il avait fait sensation en chantant avec le ténor mexicain Pedro Vargas à la radio CMQ. Peu après, un impresario l'entend chanter dans un bar de la Havane et il remplace au pied levé le chanteur du trio Matamoros à la radio. Sa carrière est lancée. Et pourtant, ce sera une étoile filante dans le ciel musical cubain. Benny part avec le trio Matamoros au Mexique, où ils enregistrent des disques ensemble et où Benny va résider de nombreuses années. Cuba va l'oublier jusqu'à son retour à La Havane en 1952. Une de ses chansons les plus émouvantes à l'époque, c'est sa prière dans la nuit, Rezo en la noche, qu'il a écrite en hommage à tous les parents qui ont perdu un enfant pendant la guerre.
Hoy mi canto no comenta un dolor ni un desengaño. Hoy mi canto no presenta vulgaridades. En el amor, hoy dedico mi canto a las madres que sufren la ausencia del hijo idolatrado que valientemente cayera defendiendo el sagrado derecho de la libertad y a la patria que solemnemente jurara lealtad. Hoy dedico mi canto a las madres que sufren la ausencia del hijo idolatrado que nunca jamás volverá. Que sufre en silencio el cruel abandono y al nene que inocente pregunta ¿dónde está papá? ¿Dónde está mi papá?
C'est avec Benny Moré, si populaire à Cuba, qu'on se quitte aujourd'hui et on se retrouve dans le prochain Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Julien Douminc, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.